Dimitri Pavlenko.
8h45, depuis quelques jours, les affaires pleuvent sur la gauche. Alors après la gifle de Quatennens chez la France Insoumise, Julien Bayou lui s'est mis en réserve de ses fonctions de secrétaire national des écologistes le temps d'une enquête interne de son parti sur des accusations portées par son ex-compagne. Mediapart révèle aussi des accusations portées de l'existence d'un signalement auprès de la cellule de la France Insoumise sur le député Thomas Porte, qui fut porte-parole de Sandrine Rousseau pendant la primaire écologiste. Voilà, embarras à gauche, après aussi les cas Bouaf, Coquerel, etc. Alors, dans des partis où l'on tient des discours féministes avancés. Bonjour Mathieu Bock-Côté.
Bonjour.
Si vous êtes sociologue, vous êtes essayiste, je vous souhaite bonne fête, c'est la Saint-Mathieu aujourd'hui.
Merci.
Vous saviez ?
Bien sûr.
Voilà. Louis Ozalter, je ne pensais jamais, Louis Ozalter est avec nous aussi. Bonjour Louis.
Bonjour Dimitri.
De Marianne, on va parler de Maastricht aussi également. Marianne, Maastricht, le piège de Maastricht qui est à la une de Marianne cette semaine, c'est en kiosque jusqu'à ce soir, donc dépêchez-vous d'aller l'acheter.
Vite, vite, vite.
18 pages, très intéressant, notamment on revit les événements de 92, il y a plein de choses que j'avais oubliées en relisant le papier, mais d'abord cette affaire à gauche, quand l'intime devient de la politique, l'intime a toujours été de la politique à gauche, mais là ça devient central. Il y a cette jolie phrase de Caroline Fourest qui est en une de l'opinion ce matin, de la morale que l'on proclame dépend une forme d'exigence personnelle. Bon, le populaire dirait fais ce que je dis mais pas ce que je fais, c'est un peu la leçon à retenir de ces affaires à la NUPES, Mathieu Bock-Côté.
Oui, ce qui est fascinant en fait, c'est que ce sont les discours tenus en public et ensuite ce qui est révélé ensuite d'une manière ou de l'autre, avec ce point d'interrogation qui est pourtant nécessaire. Qu'est-ce qui est révélé exactement? Alors pour Adrien Quatennens, c'est assez clair en tant que tel, une forme d'ailleurs d'autoconfession publique dans l'espoir de cadrer le récit à son avantage. Donc c'est toujours la même chose à gauche, rappelez-vous avec Éric Coquerel il y a quelques mois. Donc il plaide de soi, d'abord et avant tout il explique pourquoi on a raison d'avoir ce logiciel aujourd'hui qui dit le privé est politique, qu'il faut étendre sans cesse la définition des violences sexuelles et sexistes, pour reprendre le vocabulaire. Ensuite, il explique pourquoi ça ne s'applique pas à lui, on se rappelle de Coquerel, et à la fin, il reconduit son adhésion à l'idéologie dominante. Dans le cas de Quatennens, c'est plus compliqué. Il dit « Oui, je suis coupable de ce qu'on me reproche, mais je cherche à proposer un récit, un contexte qui me déculpabilise quand même un peu ». Dans le cas de Bayou, c'est plus compliqué, si je peux me permettre, parce que ce qu'on sait pour l'instant, c'est le rapport de la camarade Rousseau qui nous dit que Sandrine Rousseau, fondamentalement, il a fait des actions de nature à briser la santé morale d'une femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça rentre pas dans la même catégorie qu'une gifle, qu'une baffe ou tout ça. S'il s'agit d'une rupture qui s'est mal passée, mais où il n'y a pas de violence, où il n'y a rien de tout ça. Mmh. Mais depuis quand une rupture qui se passe mal doit se retrouver devant la commission des affaires internes d'un parti politique? Depuis quand une rupture qui se passe mal doit se retrouver devant les médias? Tant qu'on n'en sait pas davantage, il y a quelque chose qui relève de l'exhibitionnisme et du voyeurisme et de l'esprit policier.
Vous avez raison. Alors, quelle est la frontière de la violence, en tout cas celle qui doit être traduite en justice? Il y a aussi à qui revient la charge d'examiner ces dossiers? Est-ce que ce sont des commissions internes au parti? Est-ce que c'est la justice? Il y a cette question que Clémentine Autain se pose à haute voix hier en conférence de presse. Elle dit peut-être faudrait-il externaliser les cellules des partis. Je croyais que ces cellules avaient été créées parce qu'on trouvait que la justice en matière de violence sexuelle ne fonctionnait pas. Et on renvoyait ça à l'affaire PPDA, etc., etc., Louis Ozalter.
Typiquement, la cellule qui concerne la France insoumise, il avait été question au début de l'externaliser et finalement, ça n'a pas été le cas. Mmh. Et on voit d'ailleurs les traitements à géométrie variable des affaires dans ce parti selon la proximité de la personne concernée avec Jean-Luc Mélenchon, pour être clair, en tout cas avec l'état-major, le noyau dur de Jean-Luc Mélenchon. Il y a deux phénomènes différents. Je pense que dans l'affaire Quatennens, le phénomène flagrant, c'est l'effet citadelle assiégée d'un parti qui fonctionne en fait un petit peu comme un soviet. C'est-à-dire que quand une affaire concerne l'un des membres les plus haut placés de la France Insoumise, on a vu dimanche, lors de la révélation de cette affaire et la reconnaissance par Adrien Quatennens qu'il avait donné une gifle à son épouse tout en précisant tout le contexte autour, on a vu en fait le haut du parti, et notamment Jean-Luc Mélenchon,
faire bloc autour
du camarade, parce qu'il faut absolument protéger le camarade, et cela passe sur toute considération.
Oui. Et, ça n'a pas tenu.
Alors qu'avec Coquerel, ça n'a pas tenu, parce qu'il y a des énormes tensions en interne, et qu'en plus, contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Coquerel, qui a contesté de manière véhémente les faits, là, Adrien Quatennens a reconnu qu'il y avait eu un fait de violence. Et malgré ça, donc on voit ce premier réflexe qui est de se recroqueviller, d'organiser un peu le récit où il y a un « eux contre nous », d'expliquer comme le premier tweet de Mélenchon le faisait, que c'est d'abord de la faute des policiers, des médias, du système, et qu'il y aurait un complot extérieur finalement pour déstabiliser le parti en tant que tel et la cause. Donc on a vu ce premier réflexe qui risque effectivement, qui est vraiment consubstantiel à la France insoumise, mais qui risque de ne pas tenir à cause des tensions en interne et de cette contradiction éminente entre la protection du camarade et une cause érigée comme prioritaire, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes.
Mais si on prend un peu de recul, de hauteur, Mathieu Bock-Côté, on sait que la NUPES voulait attaquer la rentrée sur le front social, les retraites, etc., le pouvoir d'achat. Est-ce que avec cette affaire-là, qui tombe de manière un peu inopinée, la NUPES rate-t-elle sa rentrée ou au contraire, elle installe une problématique révolutionnaire dans le débat public.
Je crois qu'il y a une logique révolutionnaire chez plusieurs personnes à la NUPES, qui s'applique à tous les domaines d'ailleurs, les questions identitaires ou tout ce qu'on, le décolonialisme aujourd'hui, une logique effectivement révolutionnaire. On le voit aussi sur les questions, justement, des violences sexuelles et sexistes. Il faudrait questionner cette expression, si je peux me permettre, parce que ça rassemble une série de phénomènes très variés sous une même catégorie idéologique et politique. Je pense que c'est une catégorie à questionner. Cela dit, ils ratent leur rentrer manifestement parce que c'est l'éclatement de ce parti entre la morale proclamée et la morale suivie. Et c'est aussi une tension, on le voit, entre Jean-Luc Mélenchon qui a le réflexe sicilien, c'est-à-dire je défends le clan, je défends le gang. Et de l'autre côté, ceux qui nous disent c'est l'heure du procès, mais qui faut-il reconnaître comme le véritable leader de cette gauche? Il y a un côté implosion devant nous qui est assez fascinant à regarder et qui est assez triste en quelque sorte parce que ça accélère la décomposition idéologique d'un courant qui pourrait probablement dire autre chose dans la vie publique que cette espèce de procès répétition.
Alors, dans l'actualité également, enfin c'est plutôt un souvenir, un anniversaire, c'est à la une de Marianne cette semaine, il y a 30 ans, le piège de Maastricht, titrez-vous. Alors, il y a évidemment un parti pris souverainiste, mais bon, c'est la touche Marianne, dirons-nous. Louis Osalter, il y a 30 ans, que faisiez-vous? Pour qui avez-vous voté? Pour ceux qui avaient leur carte d'électeur à l'époque. Il y a un dossier très intéressant, notamment un long papier qui rappelle ce qui se passait en 1992, avant la mise en place, pourquoi on va au référendum, comment ça se passe dans les jours, les semaines qui précèdent, le jour du vote, l'annonce du cancer, l'officialisation du cancer de Mitterrand, 4 jours avant le référendum. Quelle influence cela a-t-il pu avoir sur le scrutin? On ne sait pas trop. Et alors vous dites surtout que c'est très intéressant, c'est l'expression, elle est de Gérard Longuet, il dit que ce traité de Maastricht, le référendum, instaure le clivage de Maastricht le plus profond de notre société. C'est quoi ce clivage de Maastricht?
Alors c'est le clivage qu'avait aussi théorisé Philippe Séguin dans son fameux discours contre le traité de Maastricht, où il expliquait maintenant avec ce référendum, en fait, il y aura deux camps. Il y aura ce que Emmanuel Macron appelait les nationalistes contre les progressistes, ou ce que Marine Le Pen appelle les mondialistes contre les nationaux. Et on a vu ce clivage s'installer effectivement de manière très claire depuis la présidentielle de 2017, depuis que les finales de l'élection présidentielle par deux fois, cette finale a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen.
Mais c'est 25 ans après Maastricht.
Voilà, alors tout porte, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est le phénomène dans la longueur. C'est-à-dire que Maastricht est le début de l'installation de ce clivage-là. Et il y a une autre chose que disait Philippe Séguin dans son discours devant l'Assemblée nationale, c'est qu'il il mettait en garde. Il disait attention, si vous oubliez l'existence du sentiment national, vous allez exciter les nationalistes, c'est-à-dire que et les extrémistes. Donc c'est-à-dire qu'il disait, avec ce traité qui, en organisant plus de supranationalité, en organisant des transferts de souveraineté massifs à un échelon européen peu démocratique, eh bien vous allez susciter une réaction des nations qui ne voudront pas mourir. Et le clivage auquel on assiste aujourd'hui en France, mais aussi dans d'autres pays européens, il répond exactement à cette prédiction-là. Oui. Alors, ce n'est pas uniquement le traité de Maastricht, c'est aussi tout ce qui s'en est ensuivi par la suite et tous les effets de la construction européenne telle qu'on l'a connue dans les 30 dernières années. Mais effectivement, Maastricht marque le début de l'installation d'un clivage qui montre que la vie politique s'est focalisée autour d'une question considérée comme centrale et plus centrale que le traditionnel clivage droite-gauche qui se faisait sur des considérations essentiellement économiques et sociales.
Alors d'ailleurs, à l'époque aussi, quand on se replace, il y a des très belles pages de Marcel Gauchet sur cette époque-là. Et il écrit, Marcel Gauchet, ça m'a intrigué cette phrase, Mathieu Bock-Côté, j'aimerais bien que vous m'aidiez à la comprendre. Il explique qu'à l'époque, François Mitterrand, qui a cette obsession de l'Allemagne, la réunification de l'Allemagne, ok, mais alors il va falloir les arrimer, donc on fait l'euro, etc. Mais il y a cette conviction chez François Mitterrand qu'en faisant Maastricht, la France économiquement va y perdre. Oui, mais c'est pas grave parce que nous prendrons le leadership politique de cette Europe qui sortira de Maastricht. Véritablement, vous pensez ça, Mathieu ?
Mais non, certainement pas moi. Mais il y a cette conviction, mais Marcel Gauchet a raison de prêter cette pensée à François Mitterrand, qui avait cette conviction que l'Allemagne était dangereuse et qu'il fallait la placer sous souveraineté supérieure. Et cette souveraineté supérieure était portée par la seule nation croyant vraiment à l'Europe politique, c'était la France. Donc ça, c'est le raisonnement de François Mitterrand. Il y a aussi là-dedans, faut pas l'oublier, une forme de transfert de sacré à l'intérieur même de l'imaginaire de la gauche. Donc, à défaut d'avoir accompli le socialisme, la conviction qui permettait de se reporter vers un grand projet, laisser un héritage grandiose pour François Mitterrand.
On a raté le socialisme, on réussira l'Europe.
On va réussir l'Europe. Or, le fait est que ce qui s'est construit, c'est, je sais pas si c'est une Europe politique, mais c'est une forme d'empire supranational qui non seulement ne constitue pas une souveraineté européenne, mais plus encore cherche à mater les souverainetés nationales lorsque chaque nation, qu'il s'agisse de la France, de l'Italie, de la Pologne, chacun selon ses valeurs, cherche à préserver quand même son modèle national, quel qu'il soit. Puis j'ajoute une chose, pour Maastricht, c'est le traumatisme du référendum, c'est-à-dire ils sont passés bien près de le perdre. Et dès lors, quand en 2005, le référendum, qu'est-ce qu'on disait ensuite? On a dit on devrait pas le tenir, parce que c'est une question trop complexe pour que le peuple s'en empare. Même chose avec le Brexit ensuite. Donc, est-ce que le peuple est le bienvenu dans la construction européenne? Pour plusieurs partisans de Maastricht, ils se sont dit, plus jamais ça, on ne confiera plus au peuple la possibilité de faire dérailler l'histoire.
Ouais. Alors ça, c'est un point de vue qu'on qualifierait d'eurosceptique, Mathieu, mais vous l'assumez pleinement, ça je vous sais.
J'aurais voté non.
Mais il y a aussi quelque chose qui m'a un peu troublé dans ce que vous racontez dans Marianne ou Wiesalter. Vous dites, finalement, Philippe Séguin, après avoir perdu en 92, hein, je rappelle la victoire du oui à 51,04%, il est satisfait d'avoir perdu de peu. Philippe Séguin.
Philippe Séguin a beaucoup perdu dans sa vie politique. Ouais. Et effectivement, ses proches et ceux qui nous parlent aujourd'hui de cette époque-là se demandent ce qu'il aurait fait d'une victoire du non. Une victoire qu'il a portée et qu'il n'a pas été le seul à porter, puisque c'était le début aussi de cette, vous savez, des fameux républicains des deux rives, c'est-à-dire du fait qu'à gauche comme à droite, des gens se mobilisaient pour faire barrage à ce qu'ils considéraient comme une obstruction à la souveraineté française.
On a ce clivage sur la question européenne dans les deux camps et la recomposition politique.
Ça a d'ailleurs existé aussi à gauche en 2005. Et d'ailleurs, on raconte comment un Jean-Luc Mélenchon, pour revenir à lui, a fait campagne pour le oui à Maastricht en expliquant dans la foulée de François Mitterrand que c'était l'avenir de la gauche et que la nation n'était qu'une étape. Il expliquait ça dans des tribunes, Jean-Luc Mélenchon, et comment désormais, en 2005, il a voté non. Et puis, il s'est fait ensuite une figure d'un certain souverainisme de gauche. Mais effectivement, Séguin, certains éléments portent à croire, y compris dans ses discours, qu'il n'était pas, il n'aurait pas su que faire d'une victoire pour son camp, mais dans tous les cas, il avait averti, quel que soit le résultat du référendum, c'était un tournant, c'est-à-dire que rien ne serait plus comme avant dans la vie politique, une fois qu'on aurait posé cette question aux Français, parce qu'il s'agissait pour lui d'une question existentielle.
Voilà, le piège de Maastricht, c'était à la une de Marianne, en kiosque jusqu'à encore ce soir, avant un nouveau numéro, à partir de demain. Merci Louis Osalter, merci Mathieu Bocoté.
Au grand plaisir.
À la semaine prochaine, 8h58.